Midi 30 minutes, toujours, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Pour ce deuxième segment, je vous parle de l'entretien que j'ai eu avec la professeure Caroline Patias de l'Université du Québec à Montréal. Hein, c'est que depuis quelques mois déjà, les séances du conseil municipal et de la communauté maritime sont témoins de davantage de contestations citoyennes et ailleurs au Québec, alors que le gouvernement vient d'adopter le projet de loi 57 qui vise à protéger les élus de comportements harcelants ou menaçants de la part des citoyens. Il y a aussi, on entend davantage parler de contestations citoyennes au niveau municipal, plus en tout cas qu'on avait l'habitude il y a quelques années. À la suite de l'idée justement de notre collègue journaliste Philippe Pesant-Bellemare, qui a soulevé l'idée que ce serait pertinent de s'intéresser à ce phénomène, c'est pour ça que je me suis entretenu avec la politologue Caroline Patias pour me pencher sur la question. Je suis rejoint également en studio par Florence Champagne-Hamel. Bonjour Florence.
Bonjour François.
Alors, si je t'ai invité à te joindre à moi, c'est que tu as écouté l'entrevue pour préparer le reportage qui est diffusé au bulletin de nouvelles aujourd'hui. D'après, quelle est la première chose là, qui ressortait des propos de Mme Patias pour toi?
Oui, alors François, à l'écoute de cette entrevue-là, fort intéressante, une des choses d'abord qui ressortait, c'était vraiment la transformation de la gouvernance municipale dans les dernières années. C'est-à-dire que les principes politiques qu'on voyait à l'échelle nationale auparavant descendent maintenant au municipal. On parle de l'axe gauche-droite, des questions de droit et des projets de société comme la lutte au changement climatique, par exemple. Pour la professeure Patias, c'est vraiment parce que les municipalités se retrouvent en première ligne de plusieurs enjeux contemporains aujourd'hui.
Ça correspond en fait à la transformation de la gouvernance des villes, parce que des villes et des municipalités, qui est en charge concrètement de la transition environnementale aujourd'hui ? Les municipalités. Qui est en charge du problème des sans-abri aujourd'hui ? Même si ce n'est pas que les municipalités, c'est les municipalités qui vont être amenées à réguler les tensions qui se posent. Parce que quand il y a des tensions dans les rues, les premières affectées, les premières qui doivent prendre des décisions, ce sont les municipalités. Donc il y a les grands enjeux contemporains, ce sont les municipalités qui y répondent aussi. Pas seules, mais elles y répondent pour sûr.
Mais même hein, si les municipalités ont à répondre davantage justement à des enjeux qui peuvent faire débat, ça explique pas vraiment tout le changement qu'on a vu au niveau des interactions dans les conseils municipaux. En effet, avant aussi, les municipalités se ramassaient au front de certains problèmes, mais comme elles n'avaient pas les pouvoirs pour agir avant, c'est quelque chose qui relevait du provincial ou du fédéral.
Oui, François, et pour Mme Patias, c'est vraiment le projet de loi 122 adopté en 2017 qui a changé la donne.
En fait, il y a eu un changement, je dirais, relativement significatif avec la loi 122 qui a été portée et mise en place par le ministre Coiteux. Et c'est une loi qui concerne l'ensemble des prérogatives des municipalités et qui établit une vision renouvelée des relations entre le gouvernement du Québec et les municipalités. On va les reconnaître comme des gouvernements de proximité. Donc, il y a la reconnaissance de ce statut. Ça concerne aussi la gouvernance et les pouvoirs des municipalités et l'aménagement du territoire, la fiscalité, les finances publiques, le développement économique et la transformation et l'information citoyenne. Donc tout ce que je viens de vous dire, et j'insistais dessus, les événements dont vous parlez sont relatifs à l'aménagement du territoire. Pourquoi ? Parce que la loi 122, elle revient sur l'obligation pour les municipalités d'avoir un référendum. Et il y a eu des débats à l'époque. Un des arguments du pouvoir, c'est de dire le référendum, c'est binaire, c'est oui, non. Ça donne le pouvoir à une minorité de la population et ça peut donc être une entrave au développement. Ça, c'est l'argument. Je ne vous dis pas que c'est mon argument à moi. Pourquoi ? Parce que dans mon esprit, le référendum, c'était la possibilité d'un rapport de force esquissé par les citoyens. D'abord, il y avait plusieurs étapes dans le référendum. Donc, c'était pas dit que tout référendum arrive à son terme. Et ensuite, pour éviter le référendum, si vous voulez, les promoteurs ou ceux qui tenaient à implanter le projet, ben, finalement, étaient plus désireux de négocier.
Vous l'aurez entendu, hein, dans cet extrait, la professeure Patias parle de référendum autour des enjeux concernant l'aménagement du territoire. On pourrait se demander, hein, Florence, alors, comment ça se fait qu'on n'a pas eu de référendum autour de la passe archipel ou du parc régional éclaté?
Oui, c'est une bonne question, François, et c'est en fait parce que le projet de loi a été modifié pour plutôt permettre aux municipalités d'établir leur propre modalité de consultation citoyenne dans ce qui était appelé une consultation participative à l'époque. Pourquoi? C'est qu'on avait peur que les référendums rendent trop difficile le développement du territoire, comme le note Mme Patias, mais cette attitude n'est pas sans problème, selon elle.
Il faut donner la parole aux citoyens, parce que vous comprenez que d'un côté, on a la loi 122 qui crée un urbanisme participatif, mais cet urbanisme, les modalités en sont laissées aux municipalités, qui peuvent aussi décider de le restreindre dans la portée décisionnelle des instruments mis en place. Et si en plus on décide qu'on va extrêmement limiter la période de questions, et bien là on est dans un rétrécissement de la parole citoyenne, alors même qu'on est dans une époque où les citoyens demandent davantage à participer. On dit toujours aux citoyens, vous n'êtes pas constructifs. Mais les citoyens, pour s'opposer, n'ont pas l'obligation d'être constructifs. Parce que sinon, ça veut dire que pour ne pas être d'accord, on devrait avoir un projet de rechange. On devrait être des experts dans le domaine pour être capables de fournir des solutions alternatives. Non. On peut aussi dire « ce projet ne nous convient pas, voici pourquoi ».
Mais moi, tu vois, à l'écoute de cet extrait, justement, je me demande, est-ce que parfois, pourtant, la contestation citoyenne ne rend pas justement moins efficaces les décisions et le développement de projets à l'échelle municipale?
En fait, François, ce que note la professeure Patias, c'est que c'est une erreur de penser d'abord en termes d'efficacité pour évaluer la vie démocratique municipale. On n'a pas nécessairement besoin d'être constructif pour participer à la démocratie, selon elle, et on a peut-être un peu trop peur du conflit.
Un conseil, ça doit être conflictuel. Parce que, et c'est peut-être le problème au palier municipal, on n'avait pas l'habitude de la conflictualisation des enjeux, d'avoir une opposition qui s'oppose. Hein, quel est le travail d'une opposition ? Qu'elle s'oppose. Donc si vous voulez une opposition toujours consensuelle, en fait, vous n'êtes pas démocrate, parce que la démocratie, c'est l'expression d'une opposition. Et une opposition, elle peut être constructive, on est content, mais elle peut parfois ne pas être constructive. Et c'est de la démocratie aussi. Donc, quand vous êtes élu, vous devez aussi savoir que les citoyens qui vont se déplacer au conseil, en général, c'est pas ceux qui sont satisfaits de vous. Ceux qui sont satisfaits, ils restent à la maison. Le citoyen content ne se déplace pas forcément au conseil municipal. Donc, il est certain que les citoyens qui viennent vous voir lors du conseil ne viennent pas pour vous féliciter. Et surtout, pourquoi c'est très important au sein des municipalités ? Parce que dans les conseils municipaux, à l'inverse des assemblées au palier supérieur, vous n'avez pas une opposition formalisée. Parfois, vous n'avez même pas de parti d'opposition ou d'élus d'opposition. Et donc, pour les citoyens, il y a un contre-pouvoir, l'opposition. Quand vous n'avez pas de contre-pouvoir visible, la période de questions, elle est essentielle. Elle joue le rôle à la fois de reddition de comptes et de contre-pouvoir.
Je ne sais pas pour toi, Florence, mais moi, les explications de Mme Patias m'ont quand même réconcilié avec un certain dysfonctionnement dans les conseils municipaux. Hein, que je sois d'accord ou non avec les interventions des gens, je dois quand même avouer que parfois, je pouvais être impatient lorsque je trouvais que leurs commentaires n'étaient pas constructifs ou mal informés. Mais après m'être entretenu avec Mme Patias, je vois maintenant un petit peu mieux comment soutenir peut-être la démocratie. C'est aussi la capacité d'être à l'écoute de tous les citoyens.
En effet, François, et tu sais, moi, je trouvais très intéressant aussi ce qu'elle avait à dire sur l'importance pour les élus d'être capables de répondre à tout, même si c'est difficile parfois avec la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux.
Ah, ça, c'est la difficulté du 21e siècle, une difficulté qui est ravivée par les réseaux sociaux, parce que les élus peuvent avoir un intérêt aussi à la période de questions, même si elle est difficile. Ils vont pouvoir répondre aux idées fausses. Ça ne veut pas dire qu'on va convaincre les détracteurs, mais c'est ça la magie de la parole publique, c'est qu'elle s'adresse toujours à davantage qu'aux seuls citoyens auxquels vous répondez. Donc si vous faites une bonne réponse, une réponse juste, vous ne peut-être que ce citoyen, s'il est complotiste, il ne changera pas d'avis, mais votre réponse, elle va être reprise. Elle va être reprise par la presse. Elle va être débattue. Donc, en fait, c'est la possibilité aussi de donner la bonne information. Parce que je ne dis pas que les opposants ont toujours raison. Mais la meilleure façon, j'allais dire, de contrecarrer des opposants qui auraient tort, ce n'est pas de leur couper la parole, c'est de répondre sur la place publique.
C'est un entretien que j'ai trouvé très intéressant. On aura peut-être l'occasion de reparler avec la professeure Patias cet automne autour des élections municipales pour les conseillers municipaux de l'île du Havre-Aubert et de Grande-Entrée. Merci beaucoup, Florence.
Merci à toi, François.
Demeurez à l'écoute dans un instant, le retour sur l'actualité de la semaine.